je trouve que le mot féminisme a complètement disparu. Et je trouve ça très dommage, parce que c'est pas un mot qui est emblème de violence, ni de mort. Il n'y a jamais eu de mort dans les aventures féministes, qui est extraordinaire, parce qu'il y avait pourtant de la rancune, de la haine. Eh bien, ça n'a jamais été violent. Et je trouve ça terrible que les jeunes aujourd'hui n'osent plus dire « je suis féministe ». On peut dire « je suis trotsky », »,« je suis communiste », »,« je suis humaniste ». Mais « féministe » est un mot tabou. Et je vois des journalistes qui me disent « vous êtes encore féministe ?» Comme si j'avais une maladie un peu honteuse que je n'avais pas réussi à guérir.
Le féminin pluriel de l'écrivaine féministe Benoît Groult, disparu il y a 2 ans, pour ouvrir cette émission. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, un manifeste féministe en temps de crise. Celui de la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, romancière et essayiste, auteure de L'autre moitié du soleil, d'Americana, dont la version audio d'ailleurs vient de sortir chez Écoute et Voir. Elle a acquis le statut d'icône depuis qu'elle s'est proclamée avec le sourire, puis samplée par Beyoncé, féministe africaine heureuse, précisément qui ne hait pas les hommes, porte du rouge à lèvres et des talons hauts pour elle et non pas pour les hommes. Invitée aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères, elle est l'ambassadrice de cette troisième nuit des idées, car s'il y en a une idée qui a défrayé la chronique ces derniers mois sur les réseaux sociaux et par voie de presse, tribune contre tribune, c'est bien celle des inégalités de genre, du harcèlement aux structures patriarcales, des représentations dans l'art aux abus de pouvoir, l'égalité homme-femme, le monde peut mieux faire. Et c'est justement ça définition du féminisme, celle d'un problème avec le genre qui devrait être reconnu et perçu comme l'affaire de tous, qu'il nous faut résoudre ensemble. Plaidoyer pour un monde radicalement égalitaire qu'elle n'a cessé de développer depuis la tribune de sa conférence TEDx qu'elle a donnée à Londres en 2012, intitulée « Nous devrions tous être féministes » puis éditée en livre. L'an passé, elle est revenue sur cette question dans un manifeste pour une éducation féministe traduit dans le monde entier, publié en France chez Gallimard, Chimamanda Ngozi Adichie, je n'ai pas encore tout dit, mais déjà bonjour.
Good morning.
Hello.
Et bonjour à votre voix française, Evder, qui est avec nous aussi jusqu'à la fin de l'émission, 13h30 à mes côtés. Antoine Mercier, l'imagination au pouvoir, Chimamanda Ngozi Adichie, c'est le thème choisi pour cette troisième nuit des idées. C'est un slogan de mai 68, réactivé 50 ans après. A raison pour vous, est-ce que ce monde manque cruellement d'imagination?
Yes.
Oui, sans aucun doute.
Maybe it's not so much that the world lacks imagination.
Bon, c'est peut-être pas tant que le monde manque d'imagination, mais le monde a besoin de davantage d'imagination. Et je dis ça au sens littéraire du terme. Le fait de raconter des histoires qui repose sur l'imagination, eh bien, ça crée des liens entre les gens. Et la politique, c'est exactement l'opposé de ça. Je crois qu'il n'y a pas de place pour l'imagination en politique, tristement. Et les débats sociaux tireraient avantage si on injectait plus d'imagination. D'ailleurs, beaucoup des débats sociaux seraient plus puissants si on racontait des histoires. Parce que les gens comprendraient mieux, les gens s'identifieraient davantage et pourraient prendre de meilleures décisions.
La politique, d'une certaine manière, à vous entendre, en tout cas, détruit le lien plus qu'il n'en fait. Vous, vous avez fait de la littérature votre langage, votre arme de création. Est-ce que des mots suffisent pour vous à changer le monde aujourd'hui?
Je crois au pouvoir des mots. Les mots sont puissants. Je ne veux pas être trop mélodramatique, mais je crois qu'avec des mots, on peut démarrer une révolution. Et je sais à quel point les mots ont été importants pour moi. Et le fait de lire, ça a changé ma vision du monde. Donc oui, les mots ont un pouvoir, ils sont importants.
Et les mots se transforment parfois en slogans. On citait celui qui a été repris pour cette troisième nuit des idées, l'imagination au pouvoir. Vous avez prononcé, lors de cette conférence TED en 2012, 5 mots qui sont devenus viraux, qui ont pris la force du slogan « Nous devrions tous être féministes ». Est-ce que vous avez parfois eu le sentiment d'être dépossédé de votre parole ou, disons, de votre idée d'origine? Est-ce que votre féminisme se contient dans ces quelques mots.
Or is your feminism all contained in those few words? Non, je ne me suis sentie dépossédée de rien. Je suis contente que les gens aient repris l'expression et on ne m'a rien dérobé. En fait, j'étais surprise par le côté viral de cette conférence. Mais la vérité, c'est que le mot féminisme est encore un mot qui prête à polémique. Et moi, en en parlant publiquement, je m'attendais à avoir en retour une hostilité, à être repoussée. Et j'étais heureusement surprise lorsque ça a pris la tournure qu'on sait. Bon, je pense que ce ne sont pas les mots à eux seuls qui peuvent changer le monde, ce sont les actions, mais les mots peuvent générer, provoquer une action. Et beaucoup de jeunes, s'ils n'avaient pas rencontré des mots précis, eh bien, seraient complètement détachés de l'idée du féminisme. Beaucoup de jeunes s'identifient comme féministes par les mots. Et puis, beaucoup de jeunes aussi prennent la liberté maintenant de remettre en question le genre et trouvent les mots pour raconter leur expérience. Beaucoup de gens n'ont pas les mots simplement pour exprimer le fait qu'ils sont féministes. Quand j'étais jeune, ça me passionnait la question de la manière dont le monde traite les petites filles et les garçons de manière totalement inégale. Et je ne connaissais pas ce mot féminisme. Mais ensuite, en grandissant, je me suis dit, ben oui, c'est exactement ce que je dénonce, ce manque d'attention aux femmes et aux filles.
Et ce manque d'attention aux mots, quels sont ces mots qu'il nous faudrait nous réapproprier aujourd'hui, au-delà du mot féminisme? Mais vous dites beaucoup de jeunes ne connaissaient pas ces mots, n'avaient pas les mots pour le dire. Vous évoquez ces... Alors peut-être
revenir peut-être sur les mots et sur le féminisme, parce que on a ce slogan, l'imagination au pouvoir, ce slogan de 68 qui était un souhait précisément de sortir d'un déterminisme politique, peut-être fait essentiellement par des hommes. Et si ce slogan revient si fortement aujourd'hui, c'est que précisément plus personne ne voit ou ne croit que l'imagination peut être au pouvoir, puisque tous les discours politiques, la plupart, visent à l'adaptation des situations, de notre situation, à ce qui se passerait d'une manière un peu inéluctable, sans possibilité d'imaginer. La question qui se pose est de savoir, est-ce que le féminisme est précisément la dernière planche de salut qui permettrait de sortir de ce déterminisme dans lequel nous sommes pour transformer véritablement quelque chose de réel dans la société et pour remettre donc l'imagination en mouvement dans l'histoire et au pouvoir. D'accord.
Je ne comprends pas votre question.
Sur la question des traductions, on va essayer de faire des questions plus courtes. Voilà. Est-ce que pour vous aujourd'hui, dans cette idée de transformer le monde, l'imagination au pouvoir, le féminisme est peut-être le premier ou le principal pavé à lancer cette question d'égalité homme-femme?
Yes. I think the word feminist and feminism has a very contested history, obviously.
Oui, et il y a une histoire, là encore, qui prête à polémique en ce qui concerne ces mots. Pour certains, c'est associé à des stéréotypes très négatifs, les femmes qui détestent les hommes, par exemple. Mais ce n'est pas ça du tout. Le féminisme, ou un féministe, c'est quelqu'un qui croit en l'égalité des hommes et des femmes, tout simplement. Et je crois que se rappeler ça, c'était essentiel pour l'avenir de notre civilisation. Notre civilisation a laissé perdurer pendant trop longtemps cette injustice, cette inégalité entre les sexes. La moitié du ciel, la moitié du monde a été privée de toutes les possibilités données à l'autre sexe. Et je ne dis pas par là que tous les hommes s'en sortent magnifiquement bien, qu'ils ont tous la possibilité de faire leur vie. Mais les hommes, de manière générale, Eh bien, on bénéficiait d'une image positive. On leur a accordé une dignité qu'on n'a pas accordée aux femmes. Donc l'idée, la notion du féminisme, le mot, les actions féministes visent à créer le monde qui devrait être le nôtre, un monde dans lequel chaque être humain a la dignité, peut vivre dignement comme il le mérite.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui pour vous, Chimamanda, des frontières à la pensée? Est-ce qu'un mot comme féminisme, est-ce qu'un slogan comme « nous devrions tous être féministes » est perçu de la même manière partout où il est entendu?
It's probably not. And I think because feminism
sans doute non.
Has a history.
Mais parce que, justement, on le disait tout à l'heure, le féminisme a son histoire et beaucoup d'histoires sont liées à une culture particulière. Dans beaucoup de régions du monde, féministe, c'est appartenir à un parti politique assez radical, assez extrême. Dans certaines régions d'Afrique, le mot féministe est vu comme quelque chose d'importé, de rapporté, d'étranger. Mais moi, j'aime le mouvement qui vise à rendre le féminisme universel, mais en même temps neutre, à savoir que ça signifie simplement ce que ça veut dire, plutôt que représenter le féminisme par des figures, par les figures les plus extrêmes.
Sachant que...
The thing that's important, I think, is that we need a word around which to...
Ce qui est important, c'est qu'on a besoin d'un monde autour duquel se rassembler. Si on doit livrer un combat, il faut pouvoir nommer ce combat. C'est la manière dont fonctionne la langue et le langage. Pour combattre quelque chose, il faut commencer par le nommer. Et ensuite, on peut s'accorder et entrer en action. Et pour moi, ça s'applique complètement au mot féminisme.
Les inégalités hommes-femmes se traduisent de manière différente d'un pays à l'autre. Vous avez souvent raconté, et notamment dans vos livres, ce qui peut être le propre d'une femme au Nigeria et la différence qu'il peut y avoir aux États-Unis. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le pays où l'affaire Weinstein a débuté, les États-Unis, vous qui y vivez en partie, est en train de basculer dans une forme de puritanisme? C'est une question qui a été levée ces derniers temps.
Non, je ne pense pas qu'il s'agisse de puritanisme. Ce mouvement MeToo n'a rien à voir du tout avec le puritanisme.
It's a criticism that isn't valid because if anything,
et cette critique est invalide. Le mouvement MeToo, eh bien, il s'agit des femmes qui disent oui, nous aussi on compte. Et on ne peut pas avoir la sexualité comme étant uniquement l'apanage de l'homme, enfin de son plaisir. Bon, là, je parle de la sexualité hétérosexuelle. On ne peut pas voir ça uniquement comme l'acte de l'homme. Il faut penser à l'autonomie de la femme, au plaisir de la femme. Les femmes comptent. Et la sexualité concerne le plaisir de la femme autant que de l'homme. Et si la femme ne veut pas entrer dans cette relation, eh bien, il ne doit pas y avoir de sexualité. Alors là, on parlait de harcèlement, le pouvoir de l'homme. Je crois que ça n'a rien à voir, le rejet de ça avec le puritanisme. Ce que j'espère fortement, c'est que MeToo va conduire à des relations plus heureuses, plus équilibrées entre les hommes et les femmes. Il faut bâtir un monde où les hommes comprennent que les femmes sont aussi des humains, que ce ne sont pas de simples objets, tout simplement. Et là, on pourra avoir des relations plus harmonieuses entre hommes et femmes. Un exemple, si une femme entre dans le bureau d'un homme, et qui commence à baisser son pantalon, sortir son sexe. Bon, est-ce qu'il s'agit vraiment de sexualité? Mais non, parce que la femme, on ne lui a pas demandé son avis. Les besoins de la femme ne sont absolument pas pris en compte. Donc, s'il s'agit de protester contre ce type d'action, mais c'est absurde de nous taxer de puritanisme. Ce n'est pas ça dont il s'agit.
combattre le sexisme par l'humour, avec le sourire. C'est ce que vous aviez fait lors de cette conférence TEDx où vous avez raconté des anecdotes, des choses qui vous étaient arrivées de manière très sérieuse, mais tout en réussissant à conquérir aussi l'attention du public. Nathalie Portman, l'actrice, avait joué aussi cette carte de l'humour en 2006 dans le Saturday Night Live avec un rap parodique.
We're sitting here today with film star Natalie Portman.
Hello.
So, Natalie, what's a day in the life of Natalie Portman like?
Do you really want to know?
Please, tell us.
I don't sleep, motherfucker, off that yak and that Durbin. Doing 120, getting head while I'm swerving.
Damn, Natalie, you a crazy chick.
Yo, shut the fuck up and suck my dick. I'm buzzing dudes' mouths like gushers, motherfucker. Roll up on NBC and smack the shit out, Jeff Zucker.
What you want, Natalie?
To drink and fight.
What you need, Natalie?
To fuck all night.
En 2006, elle jouait avec son image, elle jouait aussi avec les assignations identitaires. Aujourd'hui, elle ne joue plus à la tribune de la Marche des Femmes à Los Angeles le week-end dernier. L'actrice Nathalie Portman est revenue sur son vécu d'actrice, cette image de femme prude qu'elle a dû se construire dès l'âge de 13 ans, raconte-t-elle, pour se protéger des harceleurs. Quelle société voulons-nous ? C'est la question qu'elle a soulevée.
I built a reputation for basically being prudish, conservative, nerdy, serious.
Je me suis forgé une réputation de femme prude, conservatrice, intello, sérieuse, afin que mon corps soit protégé, que l'on écoute ce que j'avais à dire. À 13 ans, le message de notre culture était clair pour moi. J'ai senti le besoin de couvrir mon corps et d'inhiber mon expression ainsi que mon travail dans le but de dévoiler au monde mon propre message, à savoir que je suis quelqu'un de digne de confiance et de respectable. La réponse à tout ça, des petits commentaires sur mon corps, aux commentaires davantage menaçants, a suffi à contrôler mon comportement dans un environnement de terrorisme sexuel. Un monde dans lequel je pourrais m'habiller comme je veux, dire ce que je veux, exprimer mes désirs de la façon dont je le souhaite, sans craindre pour ma sécurité physique ou ma réputation. Voilà ce que serait le monde dans lequel le désir des femmes et leur sexualité pourraient s'exprimer pleinement. Ce monde que nous voulons bâtir est l'opposé du puritanisme. J'aimerais donc proposer une façon de permettre à cette révolution d'aller plus loin. Proclamons haut et fort, c'est ce que je veux, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce que je désire, voilà comment vous pouvez m'aider à avoir du plaisir. Faisons la révolution du désir.
Un environnement de terrorisme sexuel, les mots sont forts pour marquer, pour être entendus. Pour autant, et vous l'avez à de nombreuses reprises dit, Chimamanda Ngozi Adichie, il ne faudrait pas rejouer la guerre des sexes, on n'a rien à y gagner. Comment faire entendre son jeu féminin à tous ces « ils » masculins ? Comment construire ce nouveau monde égalitaire ensemble ?
Je crois qu'il faut commencer par
ne pas supposer que les hommes et la masculinité priment et sont plus importants. Souvent, j'y réfléchis. Comment convaincre les hommes ? C'est important, en effet, que les hommes participent à ce mouvement, d'ailleurs. C'est impossible que le féminisme concerne uniquement les femmes. Ça n'a pas de sens. On vit dans un monde où cohabitent, heureusement, les hommes et les femmes. Et je pense aussi que le féminisme fera du bien aux hommes si on vit dans un monde où les genres sont vraiment à égalité. Les hommes en tireront avantage parce que même s'ils constituent un groupe privilégié et dominant, ils sont entravés par certains aspects de la construction de la masculinité. Tout ce qu'on attend des hommes, cette pression qu'on leur met. Par exemple, je crois que les hommes ne sont pas socialisés comme nous d'utiliser la langue pour faire partie des émotions, ou les hommes ne sont pas prêts à accepter certains aspects de leur propre fragilité, de leur vulnérabilité. Beaucoup d'hommes se sentent obligés d'être celui qui gagne la vie de la famille. Donc ils sont entravés aussi. Et parler du féminisme, c'est évoquer toutes ces questions. Et puis, il ne faut pas faire du féminisme un mouvement d'émulation de l'homme, enfin, ou du moins qui essaye d'émuler, de faire comme les hommes, ni de les pacifier, ni de les mettre dans notre poche, ni de les complimenter. Je crois que c'est pas la peine de les complimenter quand ils s'efforcent d'intégrer le féminisme.
Antoine Mercier.
Oui, alors donc, nous sommes tous des féministes, y compris les hommes. On devrait être, mais vous parlez des avantages, finalement, de l'intérêt qui pourrait y avoir pour les hommes à ce combat. En quoi le féminisme libère-t-il l'homme ?
How can feminism free men?
Feminism, in the end, for me, feminism is about people being allowed to be individuals.
Ben, finalement, le féminisme, ça équivaut à laisser les gens être des individus comme ils veulent l'être et se libérer des contraintes liées au genre. C'est un peu comme si vous allez dîner quelque part et quelqu'un a déjà choisi votre entrée, plat principal et dessert sans vous demander ce que vous vouliez manger. C'est un peu comme ça avec les règles, les obligations liées au genre. Quand un petit garçon naît, on attend des choses particulières de même pour la petite fille, mais on ne les voit pas comme des individus à part entière. On voit uniquement les contraintes, l'assignation du genre. Donc, féminisme, c'est tout simplement laisser les gens être eux-mêmes. C'est aussi élever les petits garçons pour qu'ils deviennent des êtres humains et pas des hommes forts. Je crois qu'il faut libérer les hommes de cette cage, de cet enfermement de la virilité. Et dans ce cas-là, vous savez tout ce pourquoi on félicite un homme, sa force, sa vigueur. Souvent, d'ailleurs, ce n'est pas une véritable force, c'est tout dans l'apparence. Mais si on modifiait tout cela, chambouler tout ça. Et il faut maintenant, il faudrait complimenter les hommes s'ils sont habiles avec les mots, s'ils savent se montrer vulnérables, s'ils ont une bonté, une gentillesse en eux. Le monde serait meilleur, je crois. Et tout ce pourquoi on félicite les femmes et ce qu'on attend d'elles, eh bien, il faudrait l'appliquer aux hommes et inversement.
Donc c'est vraiment, là, on reprend le slogan « L'imagination au pouvoir ». Ce que vous nous proposez, c'est une véritable révolution sociale, sociétale, si on va jusqu'au bout.
Ah oui, tout à fait.
I imagine myself to be... Deep down, I have fantasies of being some sort of messiah. I want to save.
Oui, je crois que j'ai des fantasmes. Le fantasme, j'aimerais être un messie et j'aimerais sauver le monde de lui-même.
Là, je crois qu'elle vous taquine un peu, Antoine. Vous avez le droit de réagir.
Moi, je sais pas. Non, je suis pas sûr.
Non, pas sûr. Bon. À propos de révolution globale,
plus female humor doesn't always work very well.
Non, ça dépend avec qui. Est-ce que vous pensez que, on a souvent entendu ce refrain-là, que le féminisme est un problème de riches, finalement, de femmes riches, de femmes bourgeoises qui sont en condition de se poser ce type de questions, Chimamanda Ngozi Adichie? On a parlé de ce mouvement, de ce moment qui a traversé le monde entier depuis l'affaire Weinstein, ce mouvement MeToo, traduit en France aussi avec Balance ton porc. Est-ce que ce mouvement vers l'égalité homme-femme, aujourd'hui, peut toucher toutes les couches de la société pour vous? Et comment faire, surtout, pour que cette parole se propage aussi socialement à tous les niveaux?
Le féminisme, ce n'est pas une question de classe. Les femmes qui jouissent de certains privilèges de classe, parfois elles ont davantage de voix, simplement. Mais ça ne veut pas dire que les femmes des classes moins privilégiées, quelle que soit leur couleur de cheveux, quelle que soit leur richesse ou leur pauvreté, elles rencontrent toutes les mêmes problèmes qui sont liés au genre. Le harcèlement sexuel, ça ne se passe pas que dans les studios d'Hollywood, ça se passe dans les banlieues, dans les transports publics, sur les lieux de travail, dans les cuisines des restaurants, partout.
Ordinary workplaces, all of these things happen.
Tous les lieux de la vie ordinaire. Donc, je crois qu'il est important de ne pas axer cette conversation uniquement sur Hollywood. Et Harvey Weinstein, bon, maintenant, on le voit comme l'exemple même de ce qui s'est passé. Mais il ne faut pas se focaliser sur lui, parce que sinon, après, tout ce qui est moins grave, enfin, les choses, les autres cas de harcèlement peuvent apparaître comme moins graves. grave. Mais bien sûr, il était dans cette position. Mais souvent, le harcèlement, ce n'est pas aussi caricaturel. Là on dirait vraiment, c'est presque une BD, l'affaire Weinstein. C'est énorme. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais je crois qu'il faudrait parler plus de ce qu'ont perdu les femmes qui ont été victimes. Bien sûr, on peut parler de la nécessité de punir ces hommes qui ont harcelé, maltraité ces femmes. Mais je crois qu'il faudrait aussi se demander, est-ce qu'on ne peut pas faire réparation, en quelque sorte? Parce que beaucoup de femmes ont beaucoup perdu en termes de promotion sociale, par exemple. Une femme qui a dit non à un homme, eh bien, peut-être que sa carrière a été entravée et ses rêves vont s'écrouler. Je ne sais pas si on peut envisager cette forme de réparation, mais je crois qu'il faudrait en parler davantage, tout ce que perdent les femmes à cause de cela. Et c'est la société tout entière qui est privée de ce potentiel de richesse, d'innovation, d'idées neuves, parce qu'on a empêché beaucoup de femmes d'accéder à des postes importants. Je crois que ça, il faut en parler plus.
Et peut-être qu'avant de réparer, il faut effectivement être entendu. C'est aussi l'explication ou ce que met à jour ce moment que nous vivons depuis l'automne dernier. Invité de cette deuxième et dernière partie de la Grande Table, l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Elle est l'ambassadrice de cette troisième Nuit des Idées qui se tiendra aujourd'hui. Invitée du ministère des Affaires étrangères. Vous parlerez d'ailleurs ce soir à partir de 18h30. Dans ce cadre-là, toutes les informations à retrouver sur la page de la Grande Table sur franceculture.fr. Il est déjà 13h23.
France Culture, la Grande Table, Olivia Gesbert.
Et cette question du féminisme nous renvoie à une autre question, celle de l'identité. En tout cas, il y fait écho. Qui sommes-nous? Nos identités sont-elles figées ou en construction? Invité de la Grande Table en juin dernier, je vous propose d'entendre sa voix pour ouvrir cette deuxième partie de la discussion. L'historien et philosophe, théoricien du postcolonialisme Achille Mbembe, qui estimait que l'Afrique doit redevenir son centre propre et ne peut le faire qu'en s'ouvrant aux autres. Et à elle-même. Qu'est-ce que l'identité? La réponse de l'auteur de Écrire l'Afrique monde.
Quelque chose d'ouvert sur le large, quelque chose d'ouvert sur le multiple, quelque chose d'ouvert qui est ouvert sur le monde de la circulation. Mais lorsque les gens utilisent le concept d'identité aujourd'hui, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens de la clôture, dans le sens de la fermeture, dans le sens de qui est-ce qu'on va rejeter? Qui est-ce qu'on va mettre dehors? Comme ça qu'ils utilisent ce terme. Et alors, je dis non, parce que, pourquoi? Nous sommes des passants, et donc il faut réinventer des modèles politiques sur cette base-là. Et ce seraient des modèles politiques qui ne sont pas le modèle de l'État-nation, ce seraient des modèles politiques qui ne fétichisent pas les frontières, où il y a de la place pour des gens qui séjournent, le droit de séjour. Et si la terre que nous habitons nous est commune, et elle l'est, ne serait-ce que théoriquement, si la planète, nous en sommes tous les habitants et donc les ayants droit, je crois qu'il s'ensuit que le droit de séjour devrait être universel.
Cette question de l'identité, Chimamanda Adichie, c'est une question que vous avez notamment travaillée, creusée dans votre troisième roman, Americana. Comment vous vous définissez, vous, aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez femme avant d'être africaine, militante plus qu'écrivaine?
Oui, l'identité, c'est vraiment protéiforme et beaucoup de mots me viennent à l'esprit.
Je crois que
je porte toutes les identités que vous avez évoquées. J'ai vraiment des identités multiples, à l'instar de tous les êtres humains. Mais en fonction du contexte, bien sûr, il y a une partie de notre identité qui va se manifester davantage. Mes identités, je ne les organise pas de manière hiérarchique. C'est-à-dire que je ne vais pas penser à moi comme d'abord une femme ou d'abord une femme noire. Je suis tout cela. Je suis nigériane, je suis de l'ethnie Igbo, je suis africaine, je suis noire, je suis femme, je suis écrivain, je suis tout ça en même temps.
Et est-ce que ça vous convient quand on dit que vous êtes une icône du féminisme ?
I don't want to be an icon of anything.
Non, je ne veux être une icône de rien.
The problem with it is that people impose their own expectations on
you. Le problème, c'est qu'après, il y a des tas d'attentes qui sont projetées sur vous. Mais quand même, je dois ajouter.
Having this platform to talk about things I care about and knowing that
there are many people. Le fait d'avoir ce lieu d'où m'exprimer, parler des choses qui sont importantes, le fait qu'il y ait eu plein de lecteurs dans le monde et de lectrices qui pensent différemment maintenant, qui ont aidé, aimé mes écrits mais je ne veux pas non plus être quelqu'un qu'on met sur un pédestal et qui représente quelque chose. Non, moi, je vais avoir le droit d'être un être humain et je veux que, voilà, je suis un être humain avec tous ses défauts, ses failles, je ne veux pas être une icône.
Achille Mbembe a longtemps plaidé pour une histoire connectée. Est-ce que, à votre tour, vous insistez aujourd'hui sur l'importance de ces identités ouvertes, ce que vous traduisez en littérature dans Americana, c'est-à-dire l'importance de mettre en place ce dialogue entre l'Afrique et les États-Unis, notamment.
Between Africa and the United States in particular, right?
Well, Africa is part of the world, and
bon, l'Afrique fait partie du monde.
So, for me, it's really not a question. I mean, Africa has to be in dialogue with other parts of the world.
Donc, c'est obligé que l'Afrique soit en dialogue avec le reste du monde. C'est une partie du monde et une partie essentielle du monde, l'Afrique.
I mean, there is dialogue between the U.S. and Africa. There's trade.
Et je crois qu'il y a encore un dialogue entre l'Afrique et les États-Unis. Il y a des échanges commerciaux. Mais la question qu'il faut peut-être se poser, c'est si les régions du monde que l'on considère comme puissantes économiquement, eh bien, il faudrait se demander comment ces régions voient l'Afrique. Comment ils considèrent l'Afrique. Et est-ce qu'ils pensent vraiment que l'Afrique mérite d'avoir son siège à la grande table du monde. Et le discours politique est devenu ahistorique. Bon, on parle des pays africains comme cela de manière générale, mais certains n'ont que 40 ans d'existence, 50 ans d'existence. Et on compare ça avec des pays qui ont des centaines d'années derrière. On parle de ces pays africains essentiellement comme des pays d'où partent les migrants qui arrivent en Europe. Mais il y a une centaine d'années, il y avait des Européens qui entraient en Afrique de manière illégale, qui ne sollicitaient jamais l'autorisation d'entrer en Afrique. Donc ils s'installaient de force, ils pillaient toutes les ressources de ces pays. Et 100 ans plus tard, les descendants de ces gens qui ont fait l'objet de pillage, eh bien ce sont eux qui viennent en Europe maintenant. Ça ne devrait pas nous étonner, c'est un cycle naturel dans l'histoire. Et l'histoire humaine est une histoire de migration, de mouvement. Les êtres humains se déplacent depuis des millénaires, réellement. Donc, à propos du dialogue avec l'Afrique, je crois qu'il faut aussi soulever la question du pouvoir, des différences de pouvoir entre les nations, et se poser la question, sincèrement, comment on voit ce continent, l'Afrique. Et quand je dis « nous », bon, ça désigne plutôt les Occidentaux et l'Ouest, l'Occident développé.
Voilà, contre un dialogue unilatéral, mais un vrai échange. C'est aussi l'objectif de cette troisième nuit des idées qui s'ouvre. Ouvrira donc ce soir, d'ailleurs, il faut le mettre au futur, puisqu'il fait encore jour pour l'instant. Merci beaucoup à vous, Chimamanda, d'être venue nous en parler. Chimamanda Ngozi Adichie, je rappelle que vos livres sont publiés aujourd'hui en France chez Gallimard. Merci d'être venue participer à cette grande table. À FDR de vous avoir traduite, interprétée. À Antoine Mercier d'avoir tenté de vous iconifier quelque part. Et merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table qui a préparé cette émission. Claire Maillot et Chloé Leblond, Clémence Marie et Henri Leblanc, avec l'aide très très précieuse, comme chaque jour, de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. La réalisation Perry Lecra avec Clément Daté. Très bel après-midi à tous. Rendez-vous demain pour une ultime Grande Table.